Donc, aujourd'hui, nous poursuivons notre parcours sur l'Église et nous allons parler de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Donc, une profession de foi que nous disons au moment du credo, le dimanche, si nous prenons cette formule. Il y a d'autres formules, comme vous le savez. Alors, je vais vous mettre le plan de l'intervention. Excusez-moi, je n'ai pas fait les choses comme il faut, je reviens. Il faut d'abord que je mette partager. Voilà, donc vous avez là le plan de l'intervention tel que je vais vous la proposer, qui va permettre que... est-ce que vous voyez là, ça va? Et donc, en trois parties de tout à fait inégales, une première partie d'introduction sur cette confession de foi, une deuxième partie avec un plan extrêmement original, une sainte catholique et apostolique, et une troisième partie de conclusion et d'ouverture. Donc, la première chose qu'on voit et qu'on va regarder, je vais arrêter de partager, c'est le caractère liturgique de cette profession de foi qui a été utilisé, défini, excusez-moi, je cherche mes mots, qui a été défini par les conciles de Nicée et de Constantinople. Alors, dans quel ordre je vais m'y prendre? Je vais d'abord parler de la profession de foi et de sa place dans la liturgie. J'arrête de partager. La profession de foi est dite le dimanche. On utilise plusieurs formules. Dans nos églises françaises, on utilise éventuellement le symbole de Nicée-Constantinople, qui est celui dont, pour lequel je vais commenter la phrase sur l'Église. On utilise également ce qu'on appelle le symbole des apôtres, qui est un symbole qui a circulé dans les églises primitives et puis qui a été réapproprié. Il y en a plusieurs autres qui ont circulé, qui circulent encore, suivant les pays, ce n'est pas toujours les mêmes qu'on utilise, alors que le symbole de Nicée-Constantinople est le même dans tous les pays et dans toutes les églises chrétiennes. Je reviendrai sur cet aspect-là. Alors, tout d'abord, voir où il se situe dans la liturgie. Quelle que soit l'église chrétienne, c'est un objet entre guillemets liturgique, en ce sens que il n'a de sens que dans le cadre de ce que les protestants appellent le culte, de l'assemblée chrétienne réunie pour se mettre à l'écoute de la parole et pour prier. Dans la structure actuelle de nos messes, mais ça c'est vieux comme l'Église, la profession de foi a lieu à la fin de la liturgie de la parole. Donc, au début de la célébration, nous commençons par des rites introductifs qui nous aident à nous mettre en présence de Dieu. Premier rite, le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui signifie que nous avons répondu à un appel du Dieu Trinité et que nous sommes réunis en son nom. Rappelez-vous qu'il nous a promis que lorsque deux ou trois sont réunis, il est au milieu de nous. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons donc réunis à l'appel du Dieu Trinité et nous commençons par prendre conscience de notre petitesse vis-à-vis de Dieu, de nos limites, de nos, de nos défauts, etc. Et donc, on commence par un rite pénitentiel. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Bon. Quel que soit, je confesse à Dieu, quelle que soit la formule du rite, nous commençons par nous rendre compte que Dieu vient à nous, nous répondons à son appel, mais qui sommes-nous en tant que créature pour être invités par Dieu? Et donc, on se reconnaît pécheur, et comme on a confiance à son pardon, on chante sa gloire immédiatement après. Gloire qu'on ne chante pas en ce moment, parce qu'on ne la chante pas pendant l'Avent et le Carême, pour marquer ce temps d'attente, de plénitude vraiment inachevée, de plénitude qui n'est pas encore là. Et après ça, on attaque ce qu'on appelle la liturgie de la parole dans nos missels. Cette liturgie de la parole, elle consiste à écouter activement la parole, l'Écriture sainte. Nous avons dans l'Église catholique romaine le dimanche une première lecture en principe extraite de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, puis un psaume qui normalement nous fait résonner avec cette première lecture, et c'est un psaume qui est sous forme responsoriale, c'est-à-dire que soit on l'alterne, soit dans la plupart des paroisses, on prend juste un refrain pour participer à cette appropriation de l'Écriture. On continue par une lecture d'une épître, alors surtout des épîtres de Paul, parce qu'il y a beaucoup d'épîtres de Paul, mais on peut également lire les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, l'épître de Jacques, et même éventuellement, mais c'est très court, ça nous dure deux dimanches peut-être, l'épître de Jude. Oui, et l'épître aux Hébreux, excusez-moi, j'ai oublié. Donc les épîtres, puis que nous recevons assis. La position assise, c'est la position de celui qui se rend disponible à l'écoute de la parole. Nous acclamons l'Évangile et que nous recevons debout. Donc l'Évangile, c'est un extrait de l'histoire de Jésus telle que nos prédécesseurs l'ont mise en forme. Et nous la recevons debout. Ça veut dire que debout, c'est la position des hommes libres et sauvés. Puis après, l'Évangile que nous acclamons par un Alléluia. Et rappelez-vous, nous disons « acclamons la parole de Dieu enfin, ». Le prêtre nous invite, ou le diacre, il nous invite à acclamer la parole de Dieu en nous disant « acclamons la parole de Dieu ». Et nous répondons « louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est-à-dire que nous comprenons que le véritable Verbe de Dieu, c'est Jésus qui s'est incarné. Nous avons l'homélie qui nous sert à nous à réfléchir sur les lectures, à nous l'approprier. Et c'est après tout ce passage d'écoute active, d'appropriation, que nous répondons par le credo. C'est-à-dire, oui, tu nous adresses la parole par ton écriture, tu as parlé par les prophètes, tu as parlé par les apôtres dans les écritures, et tu as parlé surtout par ton Fils, par le Verbe incarné. Ça, nous le recevons, nous le croyons, et nous le formulons dans ce credo qui vient comme un accueil du don que nous a fait Dieu dans cette histoire sainte où il chemine avec nous pour nous sauver. Et donc, c'est une réponse à ce don. C'est une réponse qui est intéressante dans sa structure grammaticale, puisque nous disons « je crois », nous sommes en « je », mais nous le disons tous ensemble. Donc, l'ensemble de nos « je » crée un « nous » qui est l'Église dans l'ici et maintenant de l'Assemblée constituée à ce moment-là. Donc, une profession de foi qui n'a de sens que sur le que dans le contexte de la liturgie, même si bien évidemment les théologiens n'arrêtent pas de commenter cette profession de foi liturgique. Alors, je vous rappelle qu'on se met à nouveau debout pour la profession de foi, attitude des hommes libres et sauvés. Donc, premier point. On continue. Alors, ah oui, je voulais vous montrer, je vais partager comment Paul nous montre cet accueil de la profession de foi. Dans Première lettre aux Thessaloniciens, vous vous rappelez que c'est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Dans la deuxième partie de ce que je vous ai mis là, ah, excusez-moi, si je ne partage pas, vous ne le verrez pas. Défendez-vous si je ne partage pas l'écran et que je vous dis que je... Donc, dans la deuxième partie de ce tout très court extrait qui est au tout début de l'Épître aux Thessaloniciens, « En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit-Saint et merveilleux accomplissement. Lorsque nous disons le « Je crois en Dieu » après avoir écouté l'Écriture, avoir entendu cette annonce de l'Évangile, c'est que nous considérons que ce n'était pas seulement un discours, mais bien une action de l'Esprit-Saint, un accomplissement pour nous. Je continue un petit peu pour parler de grammaire. Alors, c'est important, donc je vais parler du symbole des apôtres, qu'on utilise dans beaucoup de paroisses, et du symbole de Nicée-Constantinople, qui est également utilisé dans certaines paroisses, certaines alternes, et qui est, entre guillemets, la référence officielle. Alors, le symbole des apôtres, attendez, avant je vais commencer par dire, dans les deux symboles, l'Église se trouve dans le paragraphe sur l'Esprit-Saint. Ça n'est pas un paragraphe à part pour l'Église. C'est particulièrement visible dans le symbole des apôtres puisqu'on a une seule phrase. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. La structure est importante. Donc, une seule phrase, l'Église est dans le paragraphe de l'Esprit Saint. Ça n'est pas une foi à part. Elle fait partie de la foi trinitaire dans l'Esprit-Saint. Et on voit le jeu des prépositions. Je crois en l'Esprit-Saint. Au début, nous avons dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique ». C'est de l'ordre de la personne. Et après, nous disons, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. On est dans l'ordre de l'objet, on n'est pas dans l'ordre de la personne. Ça n'est pas du tout la même structure grammaticale et ça dit quelque chose du statut de l'Église. Je vais maintenant aller sur le symbole de Nicée-Constantinople. Et malheureusement, il y a dans notre texte français une grossière erreur de traduction qui n'est pas corrigée dans la nouvelle traduction liturgique qui apparaît. Nous avons l'habitude de dire en français « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». comme nous avons dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique, je crois en l'Esprit Saint. Or, le latin, qui est le texte de référence, fait une différence très claire, limpide, dans sa structure grammaticale, entre le Père, le Fils, l'Esprit et l'Église. Pour le Père, nous voyons credo, je crois, in unum Deum. Pour le Fils, nous voyons et in unum Dominum Jesum Christum, en et en un seul Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'Esprit, nous arrivons à et in Spiritum Sanctum et en l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, etc. Et quand on arrive à l'Église, eh bien, on arrive à et unam sans le in. Ici, on est dans Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Nous avons bien trois personnes. Mais l'Église n'est pas une personne. L'Église est un moyen que nous donne Dieu, que crée Dieu. C'est une mission pour nous, mais ce n'est pas une personne divine. Donc, quand nous disons « je crois », si je fais une traduction entre guillemets mot à mot, « je crois l'Église une, sainte, catholique et apostolique », ça veut dire que je crois que l'Église est sainte et une, sainte, catholique et apostolique, ça ne veut pas dire que je crois en l'Église. Est-ce que vous voyez le petit détail que nos traductions françaises, malheureusement, masquent? Ça va? Si vous pensez que si vous voulez poser une question, il faut rebrancher vos micros. Hein.
Mmh. Anne, je n'ai pas vraiment compris, en fait.
Oui. Alors,
j'ai pas compris le détail que tu veux nous faire comprendre, en fait.
Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en mettant le « en » ou le « in », on s'adresse à des personnes. On est de l'ordre de la personne. Alors que quand on n'a pas le « en », on est de l'ordre de l'objet. Donc, ça n'a pas le même statut sur le plan de la foi. C'est un objet qui provient bien sûr du Père, du Fils et de l'Esprit, qui est créé par la Trinité, mais ce n'est pas une personne.
Ça, j'ai compris, ça c'est OK pour moi. Voilà. Pourquoi tu dis qu'il y a une erreur de traduction alors?
Parce que dans la traduction française du symbole de Nicée-Constantinople, on dit « je crois en l'Église », comme on a dit « je crois en Dieu le Père ». Alors que, vous voyez, dans le symbole des apôtres, on dit « en l'Esprit Saint » et « à la Sainte Église ».
D'accord, d'accord. Merci.
Voilà. C'est dommage, parce que c'est grave. Alors, ce symbole, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. L'autre, on l'appelle symbole des apôtres. Et je vais en profiter pour reparler des circonstances du concile de Nicée et de Constantinople après. Donc, Nicée 325,
question. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça symbole?
Alors, le symbole, dans le... comme beaucoup de notre vocabulaire religieux, a une origine beaucoup plus concrète. En gros, si je me rappelle bien, le symbole à l'origine, c'était ce qui unissait des gens qui étaient amenés à, par les circonstances, à se séparer. Et à ce moment-là, on prenait une pièce de céramique qu'on cassait en deux Et donc, il y avait une fracture totalement aléatoire entre ces deux morceaux de céramique. Si on prenait les deux morceaux, ça se remettait parfaitement en place. Enfin, ça concordait parfaitement, même s'il y avait oui. la fêlure. Et les gens qui étaient amenés à se séparer partaient chacun avec un morceau d'un côté qui était le symbole de leur union profonde.
D'accord.
Et c'est un nom ordinaire, symbole. Et comme ça, si des années plus tard, ils se retrouvaient, ils ressortaient de leur sac cet objet qui montrait qu'ils étaient bien toujours en lien.
D'accord.
Et le symbole, c'est un objet à la fois concret, mais chargé d'un sens également concret, mais qui n'a aucun rapport avec l'objet, entre guillemets. De même que cet objet est un objet concret, qui a un sens également concret, mais qui n'a pas beaucoup de rapport avec un anneau d'or, sinon que nous le portons dans un sens précis. Et donc, c'est quelque chose qui fait l'unité.
Merci.
Le symbole des apôtres est issu de liturgies antérieures au Concile de Nicée. Dans ces liturgies, chaque communauté locale, en lien avec les autres, en lien avec sa compréhension, crée son propre texte pour cette profession de foi après la lecture de l'Écriture. Et donc, on a certainement pas toutes, mais on a un certain nombre de professions de foi qui circulent. Là, il y a une sainte église catholique, il y en a où il y a trois adjectifs, elle peut être catholique et apostolique, ou une et sainte. Il y a beaucoup de professions de foi qui circulaient. Et vous vous rappelez que quand Constantin a libéré les chrétiens par l'édit de Milan, assez rapidement, il a voulu, parce qu'il avait quand même un empire qui était en mauvais état et qu'il fallait essayer de structurer l'Église. Et donc, il a convoqué des conciles pour essayer d'avoir des versions de la foi qui soient un peu unifiées dans tout son empire. Et donc, c'est comme ça qu'en 325 a eu lieu le concile de Nicée, qui a commencé à définir Jésus comme vrai Dieu, vrai homme, qui a commencé à écrire ce symbole, qui a été parachevé au concile de Constantinople, deuxième concile œcuménique, en 381. Donc là, c'était le successeur de Constantin qui l'avait convoqué. Entre les deux, il y a eu beaucoup d'agitation dans l'Église, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et les pères, bon, déjà définir la nature de Jésus, Christ, cette double nature, vrai homme, vrai Dieu, c'était déjà un enjeu très, très compliqué. Et quand on fait l'histoire des conciles, on parle essentiellement de cela. Mais il y avait un énorme enjeu ecclésiologique et d'unité de l'Église. Constantin, lui, ce qu'il souhaitait, c'était une Église qui rentre dans ses cases avec des évêques qui ressemblent à des préfets et qui tiennent, qui structurent finalement, géographiquement, par secteur, son empire. Et les pères se sont trouvés finalement confrontés à une difficulté, c'est-à-dire ils devaient à la fois affirmer que l'Église fait partie du projet de Dieu, ce projet de Dieu qu'ils étaient en train d'expliquer, de ce Dieu créateur qui était trinitaire et qui s'était incarné dans le symbole. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Nous disions, je ne sais pas si la traduction a changé beaucoup. Et cette incarnation, cet esprit qui nous est donné, ça c'est le mystère du Dieu trinitaire qui nous sauve. Et pour les pères de Nicée, il était important de dire à l'Église et de dire au pouvoir public, c'était aux deux qui étaient destinés ce symbole, que l'Église faisait partie du projet de Dieu, mais d'un autre côté, de la définir en termes suffisamment théologiques pour qu'elle ne rentre pas dans les cases institutionnelles demandées par l'empereur. Et donc, ils ont utilisé ces quatre adjectifs, une, sainte, catholique et apostolique, pour définir l'Église. Ces quatre adjectifs, les théologiens ont l'habitude de les appeler les notes de l'Église. Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher pourquoi ils ont donné ce terme « note » qui était noté en latin à ces quatre adjectifs. C'est simplement une façon de faire, le langage de la tribu, je dirais, des théologiens. Mais donc, s'il m'arrive de parler des notes de l'Église, c'est parler de l'unité, de la sainteté, de la catholicité et de l'apostolicité. L'icône que j'ai mise à gauche, là, c'est une icône orthodoxe, bien sûr, orientale, qui représente le concile de Nicée et les évêques présentant la profession de foi au peuple chrétien. Alors, je continue sur ce concile et cette profession de foi de Nicée-Constantinople pour vous rappeler que les premières divisions dans l'Église, enfin, il en est apparu avant puisque Nicée s'est élevé contre les doctrines d'Arius, hein. Mais les premières divisions dans l'Église qui perdurent jusque nous ont lieu après les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. Donc, ce symbole de Nicée-Constantinople est reçu par toutes les églises chrétiennes. Les églises qui étaient attaquées par ces conciles, essentiellement les Ariens, n'existent plus. Donc, ça signifie que qu'on soit orthodoxe, qu'on soit catholique romain, qu'on soit issu des églises de la Réforme, donc protestant, on a ce même symbole de Nicée-Constantinople et on affirme que l'Église est une sainte catholique et apostolique. Bien évidemment, on n'a pas toujours la même compréhension de ces notes, de ces adjectifs. Alors, si vous allez dans un temple de l'Église protestante unie en France, souvent à la place de catholique qui a pris une connotation confessionnelle, un retrécissement du terme, du fait que l'Église à laquelle nous appartenons, c'est considéré comme la catholique et a imposé cette façon de voir, essentiellement d'ailleurs dans les pays catholiques, majoritairement catholiques, donc c'est le nôtre, puisque en anglais, dans les pays anglo-saxons, quand on parle de l'Église romaine, on ne dit pas que catholique, on dit Roman Catholic. Et du coup, le terme catholique est moins connoté romain. Donc, dans les églises, dans les temples de l'Église protestante unie, quand on proclame la foi, si on utilise le symbole de Nicée, très souvent, on remplacera catholique par universel. Tout à l'heure, on verra qu'on n'est pas loin, mais qu'il y a des petites nuances.
Qu'est-ce que ça veut dire catholique?
Alors, dans la deuxième partie, on va prendre les adjectifs et je vous propose de les prendre dans l'ordre.
D'accord, d'accord.
Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est cet aspect qui est utilisé dans toutes les églises chrétiennes pour dans la foi que nous croyons, l'Église une sainte catholique et apostolique. Et nous n'allons pas avoir tout à fait mais le même terme. Donc, une fois que j'ai dit cela, que j'ai dit que c'était à toutes les églises chrétiennes, ce que je vais vous dire aussi, à la fin du XXe siècle, il y a eu deux gros traités sur l'Église, écrits par des théologiens germanophones, comme savent écrire les germaniques, avec 500 pages sur l'Église, et un écrit par un certain Jürgen Moltmann, qui est un réformé calviniste, presbytérien, donc, et un écrit par le cardinal Walter Kasper, qui donc, comme le terme cardinal l'indique, est un catholique romain. Et les deux ont un bon 30 pages sur l'Église, une sainte catholique et apostolique. Pour bâtir ce cours, je les ai fait un peu dialoguer. Donc, ce sont des germaniques, donc très spéculatifs. Et le cours, j'espère, ne va pas être trop spéculatif, mais un petit peu, quand même. Bon, alors on va continuer. Je vais continuer en prenant les quatre notes, les quatre adjectifs, les uns derrière les autres. Et donc, je vais commencer par l'Église une. Et donc, je vous ai mis là deux phrases extraites de ces deux ouvrages. Une, donc, Jürgen Moltmann, c'est le protestant. Walter Kasper, c'est le catholique romain. L'unité de l'Église n'est pas d'abord l'unité de ses membres, mais l'unité du Christ qui agit en eux tous, en tous les temps et en tous les lieux. Le catholique romain, le principe de l'unité et le fondement de l'unité et de l'unicité est le Dieu unique qui rassemble son peuple et qui l'unit en Jésus-Christ dans l'Esprit-Saint. Donc, à la fois des nuances qui sont des nuances de sensibilité personnelle, des nuances confessionnelles, des nuances d'époque également, dans la mesure où Moltmann écrit plutôt dans les années 70 et Kasper plutôt dans les années 90, et que entre les deux, il y a eu dans les églises d'Europe occidentale et dans la théologie occidentale un très, très grand renouveau de la pensée trinitaire, de la pensée de l'Esprit-Saint et de la Trinité. Alors que les églises occidentales un peu intellectuelles étaient très christologiques jusqu'au Concile, que ce soit l'Église catholique romaine, que ce soit les églises protestantes de la ligne historique traditionnelle. L'unité, donc, ce n'est pas une unité faite par les chrétiens, c'est une unité qui prend sa source en Dieu. Et elle comprend deux choses. Elle comprend l'idée qu'il n'y a qu'une seule Église, donc l'unité et l'unicité. Quand je dis « je crois l'Église une », je dis qu'il n'y a qu'une seule Église et je dis que l'Église est unie. Donc, je donne deux nuances au fait que l'Église est une. Il n'y en a qu'une, c'est celle du Dieu trinitaire. Il n'y a qu'un seul Dieu trinitaire, donc il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul projet de Dieu de créer le monde et de le sauver par son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule Église. L'unité de l'Église, ça, c'est également le fait que, normalement, tous les chrétiens qui sont dispersés, toutes les églises locales qui, chacune dans leur ici et maintenant, sont l'Église de Jésus-Christ dans cet ici et maintenant, sont unies, se reconnaissent comme la même Église du Christ. Et donc, du Christ trinitaire. L'unité est un don de Dieu, est une qualité de Dieu dont il nous fait don. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a dit que l'unité était une qualité de Dieu, dont il nous fait don pour son Église, nous pouvons contempler le Dieu Trinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, c'est un Dieu où circule l'échange, où circule l'amour. On pourrait presque dire où circule la parole, mais nous ne sommes pas forcément en Dieu. C'est un Dieu qui n'est pas uniforme. C'est un Dieu qui, au cœur de lui-même, vit la diversité et l'échange. Et donc, dire que l'Église est à l'image du Dieu Trinité, c'est dire que l'Église n'est pas forcément monobloc, n'est pas forcément, Vous voyez encore mon échange ou pas ? Voilà. L'Église n'est pas monobloc. Il peut y avoir de la diversité dans l'Église. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de s'exprimer, les mêmes façons, les mêmes cantiques, les mêmes rites. Et au cœur même de notre Église catholique romaine, on a ces 23 églises orientales qui ne concerne que 1,5% des membres de notre Église, mais qui sont pour nous le signe permanent qu'il faut qu'on accepte, qu'on vive la diversité au sein de l'Église. Et ça, c'est extrêmement important dans notre marche vers l'unité, notre compréhension de l'œcuménisme. On peut vivre dans l'unité sans être homogène, sans être tous pareils. Alors, j'ai mis ensuite une phrase qui est extraite, c'est la deuxième phrase de la Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église. La première phrase, c'est Lumen Gentium, la lumière des hommes, c'est le Christ. Donc ça. Et la deuxième phrase va nous parler tout de suite d'unité pour définir l'Église. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, ça c'est pour ne pas la faire rentrer dans la théologie des sacrements que vous étudierez au trimestre prochain avec frère Isaiah. Donc l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen. Donc sacrement, c'est un signe, quelque chose qui fait voir, qui permet de comprendre, et un moyen, quelque chose qui nous donne des accès, qui nous facilite les choses, Et de quoi? De deux lieux d'unité, l'union intime avec Dieu et l'unité du genre humain. Alors faites attention dans cette définition. L'Église est signe et moyen, mais là encore, c'est la traduction officielle. En latin, il n'y a pas le. Il y a l'Église est signe et moyen. Donc, ça ne dit pas que c'est le seul signe, c'est le seul moyen. C'est signe et moyen. Ça ne dit absolument pas que tous les hommes doivent rentrer dans l'Église pour que l'unité du genre humain se fasse. Ça signifie que l'Église a en charge de penser l'unité du genre humain. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est l'Humen Gentium 1, 2, 3 et 4. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. Puis après, on continue. Alors, cette unité, nous savons qu'elle est mise à mal actuellement, puis depuis longtemps, ce qui pose à la fois un problème, puisque Jésus a prié pour que nous soyons un afin que le monde croie. Donc, il y a ce problème de crédibilité. Et je vous rappelle que la première conférence œcuménique en 1910 à Édimbourg, qui était intra-protestante, elle avait pour but la mission. C'était une conférence sur les missions. Si on veut être des bons missionnaires, il faut qu'on se reconnaisse entre nous. Il ne faut pas qu'on dise que le baptiste qui est passé il y a 4 ans, ce n'était pas un bon chrétien et que c'est moi qui suis presbytérien qui arrive avec la vraie foi en Jésus-Christ. Donc, on est quelque part en faute, entre guillemets, par rapport à notre profession de foi. Mais on est aussi quelque part en nous reconnaissant en chemin, en nous reconnaissant comme... Donc en chemin, en pèlerinage sur la terre, en nous reconnaissant imparfaits et en sachant que le plein accomplissement de l'Église telle que nous la professons, telle que nous la voyons, qu'on la comprenons comme étant comprise par Dieu, n'est pas de l'ordre de notre condition terrestre. Et ça permet une transition avec la sainteté. On prend quelques minutes éventuelles pour échanger. Alors, je vais parler de l'Église sainte et on peut dire que par les temps qui courent, c'est un peu difficile à admettre, mais nous avons eu une Église des croisades, de l'Inquisition, qui a brûlé des sorcières, qui s'est déchirée pendant les guerres de religion. Nous avons des milliers de raisons dans l'histoire d'avoir vu du scandale dans l'Église. Parce qu'à un certain niveau de péché, c'est du scandale. Et pourtant, nous continuons d'affirmer que l'Église est sainte. Et donc, il faut quand même qu'on clarifie un petit peu cette contradiction. Dès l'Ancien Testament, la sainteté, c'est un attribut de Dieu. Alors, le Dieu païen, c'est un Dieu qui est sacré, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est en dehors des hommes. Et c'est un Dieu qui fait peur, qui, avec lequel on prend distance. Et petit à petit, Israël apprend, tout au long de l'Ancien Testament, à passer de la peur à la crainte, c'est-à-dire à un juste positionnement face à la grandeur de Dieu, face à sa toute-puissance créatrice. Et ceci, il l'apprend de son Dieu lui-même qui veut communiquer sa nature à l'homme, lui faire partager sa nature divine. Et donc, Dieu devient le saint, c'est-à-dire à la fois le tout autre, le transcendant, celui qui nous crée, qui nous dépasse, mais également celui qui va vers son peuple, celui qui cherche à donner le meilleur de lui-même à son peuple. Et ça, dès l'Ancien Testament, Israël en prend connaissance petit à petit. Et dès l'Ancien Testament, on entend Dieu dire à son peuple, « Soyez saints parce que je suis saint. » Donc, il nous invite à accueillir sa sainteté, qui est la qualité de Dieu. Donc, quand nous parlons de l'Église sainte, en fait, nous parlons de l'Église de Dieu. Nous parlons de l'Église qui devrait recevoir sa sainteté de Dieu. Et dès le début, cette sainteté est dans la compréhension que les chrétiens ont d'eux-mêmes, pas forcément en tant qu'individus, mais en tant qu'assemblée convoquée et dispersée, puisque les chrétiens font très tôt le choix de vivre ce rythme de l'assemblée et de la dispersion dans le monde. Et ils font cette expérience d'être immergés dans la sainteté. Quand on prend le symbole des apôtres, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, toute cette sainteté entoure l'Église. Et la sainteté entoure l'Église parce que Dieu est le saint qui vient à l'homme. L'homme qui venait de Dieu, Dieu qui vient à l'homme, c'est la caractéristique de Dieu. Et on voit ça dans l'Écriture, dans tout le mouvement de l'incarnation. Jésus est le saint. Jésus a toute la sainteté de Dieu qui s'exprime dans l'incarnation, dans cet homme et dans ce tout petit enfant qui prend chair dans le sein de Marie. Donc, on voit Luc, au tout début de son récit évangélique, présenter celui qui va naître. Donc, hein. Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que dit l'ange à Marie ? L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Donc, vous voyez, dès l'annonce à Marie, la structure trinitaire portée par Saint Luc, c'est l'Esprit Saint qui va venir. C'est la puissance du Très-Haut. Et c'est le Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il est Fils de Dieu, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit qu'il est saint, c'est parce qu'il vient de la puissance du Très-Haut, c'est parce qu'il est Fils de Dieu. Il a toutes les caractéristiques de Dieu. Il est le saint. Il est saint. Et donc, par l'incarnation, cette sainteté que Dieu proposée à son peuple dès l'ancienne alliance, vient sur terre et il nous en fait part, il nous la partage, il nous la donne. Ça va être une conscience très, très forte de ces premières petites communautés chrétiennes, d'avoir reçu de Dieu la sainteté, d'être sanctifié par Dieu et du coup d'être des saints. Et on revient toujours à cette phrase qui est fondamentale dès qu'on s'intéresse à l'Église, qui est cette premier verset de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, donc qui s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. J'ai commenté maintes fois ce terme. Et l'Église de Dieu qui est à Corinthe, il va préciser, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Donc, ils sont devenus saints puisque Dieu, dans le Christ, les a rendus saints. Appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on est appelé par Dieu à faire partie de l'Église, que donc on est dans son assemblée, je vous rappelle qu'assemblée, c'est ceux qui sont convoqués, eh bien, on est appelé à être saint, c'est-à-dire à partager cette qualité de Dieu. Et cette qualité de Dieu, on la partage avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important de se rendre compte de cette nouveauté que ressentent les premiers chrétiens. Rappelez-vous, après Paul, il va nous décrire ces chrétiens corinthiens avec tous ces défauts. Ils sont lourds quand même, hein, d'après ce qu'on comprend dans la première épître aux Corinthiens. Mais ils sont saints. Et ils sont saints parce que Dieu les veut saints et les reçoit et les appelle pour être saints. Donc, au début, c'est les chrétiens rassemblés qui sont saints. Et après, un peu plus tard, je prends maintenant l'épître aux Éphésiens, dont vous avez appris quand vous avez écouté Roselyne Dupont-Roc qu'elle était plus tardive que l'épître aux Corinthiens, eh bien, on va parler de l'Église pour dire qu'elle est sainte. Le Christ a aimé l'Église. C'est intéressant, l'Église, elle n'existe pas du vivant du Christ, du vivant sur la terre. Et pourtant, on dit le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte. C'est l'Église qui est là, qui est sainte. En la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la représenter à lui-même, splendide, sans tache ni défaut. Il a voulu son Église sainte, irréprochable. Donc, c'est dans la vision de Dieu que l'Église est sainte. Et quelque part, quand nous disons le credo, c'est vrai pour sainte, mais c'est vrai pour les quatre notes, pour les quatre qualités de l'Église, nous disons l'Église telle que nous comprenons que Dieu, le Dieu trinitaire, a voulu, veut se la représenter, veut qu'elle soit, veut qu'elle se présente devant elle. Alors, ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'on fait de cette Église scandaleuse, pleine de péchés. Pendant très longtemps, au XXe siècle et avant, on a reconnu qu'il y avait des pécheurs dans l'Église, mais on a eu du mal à penser que l'Église pouvait être pécheresse. Ça n'est qu'assez récemment que on envisage de penser l'Église comme marquée par le péché. Au moment du jubilé du deuxième millénaire, Jean-Paul II osera dire qu'il existe des structures de péché dans l'Église, ce qui est extrêmement fort de la part de Jean-Paul II, puisque en affirmant les structures de péché, il ne va pas dire le terme qui est employé actuellement de systémique, mais il s'approche de cette notion. Il y a des structures qui entraînent le péché. Il n'y a pas seulement des pécheurs qui font que l'Église pêche. Il y a des structures dans l'Église qui entraînent le péché. Alors, comment nos deux théologiens vont dire cela, sachant qu'ils ont des visions de l'Église assez différentes, puisque le réformé, pour lui, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le réformé, alors que le catholique romain est beaucoup plus dans l'institutionnel et voit sa propre Église. On va commencer par voir le réformé. La sainteté ne sépare pas substantiellement l'Église et les chrétiens de l'humanité pécheresse et ne les ravit pas au-dessus de la masse des pécheurs. Si dans l'Église on croit à la grâce justifiante de Dieu, là on est dans une théologie très réformée, Dieu, ce que Dieu a choisi, il les justifie, c'est-à-dire il les rend justes, il les rend capables d'avoir la juste position devant lui et dans les hommes. C'est ça, être juste, d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. C'est ça, être juste. Donc, si dans l'Église, on croit à la grâce justifiante de Dieu, par elle, par l'Église, c'est aussi la misère vraie et totale des hommes qui apparaît par l'Église. La misère vraie et totale des hommes apparaît. La misère de l'humanité, appelée péché, ne peut être connue et confessée sans dissimulation et sans auto-justification que là où le pardon divin, la justification et la sanctification divine apparaissent dans l'histoire. L'Église est donc sainte, justement, quand elle confesse ses péchés et les péchés de l'humanité et fait confiance à la justification par Dieu. Cela n'est pas vrai seulement pour les chrétiens individuels, mais comme nous l'avons dit au début, c'est vrai aussi pour l'Église entière. Donc là, on est dans la version réformée, protestante. Et le cardinal Casper va avoir d'autres mots, d'autres formulations. Je suis certaine que le cardinal Casper, qui est postérieur, avait lu Moltmann. Et il va utiliser le vocabulaire de Jean-Paul II. L'Église sainte qui porte des pécheurs en son sein et qui comporte des structures pécheresse vit entre le déjà-là et le pas encore. Cette notion eschatologique de l'Église en chemin qui n'est pas pleinement accomplie. Maintenant, nous portons encore notre trésor dans des vases d'argile qui sont fragiles. C'est eschatologiquement seulement que l'Église se présentera dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, sans tache ni ride. Vous voyez sa splendeur, sa beauté, il fait référence à ce texte d'Éphésiens. Il a voulu se la représenter à lui-même, splendide, sans tache ni défaut. Donc, c'est eschatologiquement seulement que l'Église se présentera dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, sans tache ni ride. L'Église ne peut donc se qualifier de Sainte Église de façon crédible que si elle emprunte sans cesse le chemin de la pénitence, du renouvellement et de la réforme. Et plus loin, il va de soi qu'on ne peut en rester à des confessions des péchés ou à des demandes de pardon répétées de façon rituelle ou proclamées de façon officielle. Il faut une conversion intérieure et un renouveau de l'esprit. Elle doit, c'est la conversion, devenir concrète. Donc, c'est, je crois que c'est en 89 ou 90 qu'il a écrit ça en allemand, sorti en français en 95. Mais vous voyez, ceci, ça nous parle vraiment actuellement. Et alors, je vais terminer la partie sur l'Église sainte par un document élaboré par la Commission internationale catholique luthérienne. Ça, c'est un document officiel, c'est-à-dire qu'il est signé par Rome, pour nous qui avons un magistère qui fait autorité. Nous confessons unanimement avec le credo de l'Église ancienne que l'Église est sainte. Cette sainteté consiste essentiellement dans l'appartenance au Dieu un et trine, le seul saint dont elle provient et à qui elle va. Donc, toujours cette entre-deux, entre une Église qui se crée dans l'événement pascal, on dit souvent au jour de la Pentecôte, symboliquement, et à qui elle va, cette vision eschatologique de l'accomplissement dans le royaume. Je vous laisse quelques petites minutes pour digérer l'Église sainte.
Je vous remercie parce que ça me perturbait ces derniers temps, l'Église sainte avec tout ce qui se passe, et je comprends un petit peu mieux. C'est parce que c'est l'Église du Seigneur, en fait. C'est le Seigneur qui est saint, en fait. C'est ça.
C'est ça. C'est le Seigneur qui est saint, ce n'est pas l'Église. Ce serait trop beau. C'est très intéressant de voir que dans les épîtres, dans les textes des premiers chrétiens, ils se considèrent comme des saints. Quand ils s'adressent les uns aux autres, ils s'adressent aux saints de l'Église de tel endroit. C'est parce qu'ils sont appelés par Dieu à cette sainteté. Et ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Si vous relisez cette lettre aux Corinthiens, c'est flagrant. Ils les appellent saints et ils passent son temps à énumérer leurs fautes. Alors, on va venir au terme catholique, qui donc est dans la profession de foi, profession de foi qui date de bien avant nos divisions et qui est un terme largement détourné de son sens, puisqu'il a été... Une église s'est considérée à un certain moment comme étant la véritable église catholique. Alors, on va voir un peu à la fois la signification originelle du début de ce terme de catholicité et comment, pourquoi l'Église romaine a ses pensées comme dépositaire de la catholicité de l'Église. On va se mettre à la catholicité. Autant l'unité, qui est l'unité de la Trinité, c'est un terme qui apparaît dans le Nouveau Testament. La sainteté, n'en parlons pas, puisque l'Église est sainte, vous l'avez vu, en tant qu'Église dans l'Épître aux Éphésiens, mais elle est l'assemblée des saints dans les Épîtres de Paul. Elle est l'assemblée des saints dans l'Épître aux Hébreux. Ils n'ont aucun doute là-dessus, sur cette sainteté. Autant le mot catholique est à la fois un mot qui n'apparaît pas dans le Nouveau Testament et à la fois un mot très ancien, puisqu'il est attesté vers 110 pour désigner l'Église. Et on a coutume de dire qu'il est attesté dans les écrits de saint Ignace d'Antioche. Donc, Ignace d'Antioche, martyr quelque part entre 110 et 115. Évêque d'Antioche, donc, comme son nom l'indique. Et il va employer ce terme de catholicité, ce terme de catholique, pour désigner l'Église au sens large, la catholicité, composée d'assemblées, donc d'églises locales, qui sont dans l'unité. La catholicité et l'unité dans la pensée des pères, c'est quelque chose qui est très imbriqué l'un dans l'autre. Alors, je vous ai mis cette phrase qui est très célèbre, qu'on trouve dans tous les livres de théologie. Là où paraît l'évêque, là est la communauté, ou l'assemblée, suivant la traduction, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. À une époque où, bien sûr, le terme apparaît. Alors, catholique, ça veut dire holos, c'est le tout, holistique, etc. Et cat, il y a une idée de quelque chose d'englobant, de quelque chose qui recouvre, plutôt englobant. Et donc, dans ce terme catholique, on va parler d'une Église qui englobe le tout. Et il va être utilisé pour parler, pour donner une explication à cette unité d'une Église qui est en fait dispersée en plein de petites assemblées locales. Je vous signale un livre qui est en train de sortir, qui s'appelle « L'Église des Maisonnées » de Marie-Françoise Basselès, qui est un livre qui décrit cette Église des premiers siècles qui se réunit dans les maisons. Et je ne l'ai pas encore eu en main, mais Aurélie Dupont-Roc m'a dit que c'était très facile à lire et que ça faisait un très bon cadeau de Noël. Donc, cette Église qui, c'est plein de petites unités, et puis il y en a à Antioche, il y en a à Smyrne, il y en a à Athènes, il y en a à Rome, il y en a à Alexandrie, elles appartiennent à ce grand tout. Elles appartiennent à la catholicité. Et, suivant la théologie d'Ignace d'Antioche, qu'on a peut-être trop exacerbée, c'est par l'intermédiaire symbolique de cette personne, de l'évêque, qui et l'unité des assemblées de sa ville, d'Antioche, de Smyrne, d'Athènes ou de Corinthe, et qui est le vecteur de l'unité entre les villes, entre ses différents confrères. Et donc, on va opposer les assemblées de l'Église catholique aux assemblées entre guillemets individualistes qui ne se reconnaissent pas dans l'unité, qui ne font pas l'effort ou qui refusent de se penser dans le tout par l'intermédiaire donc de l'évêque dit Saint Ignace d'Antioche. Donc, la catholicité, c'est cette notion d'une Église qui est dispersée sur toute la terre et qui est dans cette chaque ici et maintenant, l'Église qui englobe le tout parce qu'elle est une. Donc, c'est totalement imbriqué dans l'unité, la catholicité, pour les anciens. Et c'est là que vous voyez apparaître cette notion d'église légitime, puisqu'elle est dans l'unité de toutes les églises locales, qui, par opposition à une assemblée qui se dirait chrétienne, qui aurait correctement une lecture des Écritures, qui aurait correctement une pratique eucharistique, qui s'occuperait bien des pauvres, etc., mais qui ne se reconnaîtrait pas comme appartenant, comme étant portion d'un grand tout. Et donc, petit à petit, le catholique va avoir ce sens dérivé de véritable église. Est-ce que vous comprenez ces petites nuances? Alors, je vous ai remis un petit mot à propos d'un texte qui a circulé, qui sont les actes du martyr de l'évêque Polycarpe de Smyrne. Donc, Smyrne, c'est en Asie mineure. Et au moment de son martyr, qui a été spectaculaire, qui a été très instructif pour les églises, on a vu circuler le récit de son martyr, sous forme de lettres circulaires, comme l'Église primitive l'a beaucoup pratiqué. Et cette lettre était adressée à toutes les communautés de la Sainte Église catholique en tout lieu, c'est-à-dire toutes celles qui se considèrent comme faisant partie de ce grand tout, ce qui est le sens littéral de catholique. Donc le terme de catholicité veut dire cette espèce d'unité dans la dispersion, cette appartenance à un grand tout qui est médiatisé par la personne de l'évêque. Vous voyez ? Et petit à petit, au début, on est dans les premières générations, mais petit à petit, on va avoir non seulement cette catholicité dans l'espace, en Asie mineure, à Rome, en Afrique du Nord, mais également une catholicité dans le temps. Et Vincent de Lérins, quand il va définir ce qu'est la véritable foi catholique, il va avoir cet aphorisme, j'espère qu'il a développé un peu plus, et catholique, ce qui a été et est cru, donc c'est du verbe croire, partout, toujours et par tous. Donc, cette notion de répartition spatiale, de répartition dans le temps entre l'origine de l'Église, l'an 435 où parle Vincent de Lérins, et la fin des temps, le royaume eschatologique, et par tous, c'est-à-dire par tous ceux qui se reconnaissent comme chrétiens, comme appelés par Jésus-Christ. Saint Augustin dira, de son côté, que la grande Église est dans la catholicité, alors que l'hérésie ou les schismes restent locales. Et c'est comme ça que finalement, il définira, il dira que c'est un critère de discernement de ce qui est la vraie foi catholique, donc, et de ce qui est hérétique. C'est que l'hérésie reste locale. Et là, on est chez saint Augustin. C'est donc, oui, c'est assez contemporain, de, il me semble, de Vincent de Lérins. Donc, voilà un petit peu pour ce terme catholique. Et comme il faut quand même avoir une façon de penser qui ne soit pas celle pro-romaine, je vous donne cette définition du Jürgen Moltmann, donc réformé. La catholicité de l'Église est définie par la présence universelle du Christ qui réunit tout. Ensuite, la catholicité signifie l'Église totale et entière dans le Christ. Cela inclut sa catholicité spatiale, sa présence en tout lieu de la terre habitée et sa catholicité temporelle, sa présence en tous les temps de l'histoire. Alors, comment on en est venu à voir dans l'Église de Rome le lieu de la catholicité, puis à exclure de la catholicité, au moins dans notre langage à nous, catholiques romains, les gens qui ne sont pas en union avec l'Église de Rome, ça a quelque chose à voir avec la catégorie d'apostolicité. Mais avant d'attaquer cette apostolicité, je voudrais faire une petite remarque sur le fait que les trois catégories qu'on vient d'évoquer, l'unité, la sainteté, la catholicité, sont à penser eschatologiquement. On ne peut pas concevoir que l'Église terrestre en pèlerinage sur la terre sera pleinement une, pleinement sainte, pleinement catholique, parce que elle est encore dans cette condition de créature, elle est encore terrestre. Et donc, quand nous affirmons l'Église une sainte catholique, une sainte et catholique, je mets à part apostolique, nous sommes dans cette foi eschatologique. On se pose deux petites minutes.
Et, que disent les orthodoxes ?
Ils parlent, ils utilisent le terme catholique. Évidemment, ils ne reconnaissent pas à Rome le statut d'être l'arbitre de la catholicité. On aura, en guise de conclusion, un mot sur la notion de véritable Église, qui est extrêmement importante dans cette histoire de catholicité. ça va avoir aussi à voir avec cette notion d'apostolicité. On va voir maintenant.
Excusez-moi.
Oui.
Je me souviens une fois, un prêtre, il me disait pour juger la catholicité d'un croyant, il y avait, je crois, trois critères, mais je ne me rappelle plus de tous les trois. Mais je me souviens qu'il y avait cet amour pour la Vierge Marie. En tout cas, pas une foi, mais un respect de Rome, je crois. Et il y a un troisième point, je ne m'en rappelle plus. Et est-ce que ça a un rapport avec ce que vous dites?
Alors, je dirais quand même que j'essaie d'avoir beaucoup plus de hauteur que cette vision très romaine de la catholicité, qui était certainement la vision telle qu'on la comprenait dans l'Église catholique romaine avant Vatican II, et qui est quelque chose qui chemine actuellement chez les théologiens, dans le magistère et dans le peuple chrétien, en ce sens que on se rend compte qu'il faut qu'on chemine, mais qu'on chemine eschatologiquement. Il ne s'agit pas de dire que d'être dans la facilité, mais de recevoir ce que les autres ont refusé de ce que nous avons vécu. Et donc, tout ce qui est le lien à Rome, tout ce qui est la façon dont nous nous positionnons vis-à-vis de Marie, c'est-à-dire que être dans le respect pour cette personne, pour Marie, qui est l'archétype du oui à Dieu, le modèle du oui à Dieu, c'est une attitude que on pourrait qualifier de juste. La considérer comme Dieu, elle n'est que mère de Dieu, c'est son fils qui est Dieu, pose un problème, et c'est toujours dans la nuance qu'on est. Si on est dans l'excès, on n'est plus dans la juste position. Et c'est toute cette réflexion qui se fait actuellement, et où, alors que dans les siècles qui ont précédé, on s'est positionné, et cette question de catholicité, à se positionner comme catholique, par opposition au monde protestant, on est beaucoup plus actuellement, y compris dans notre Église à nous, en train de réhabiliter les nuances et de nous demander mais où, dans quel excès de nos façons de vivre, les Églises de la Réforme, les Églises orthodoxes, nous interpelle pour nous inviter non pas à une unité arbitraire, volontariste, etc., mais à approfondir notre compréhension du mystère de Dieu. Et donc, cette formulation est une formulation qui était peut-être un peu plus ancienne parce qu'elle était, sans qu'on l'entende trop maintenant, elle était une formulation discriminante plus que de recherche de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était la formulation typiquement à Lourdes jusque dans les années 50.
Ce qui s'est passé à Lourdes dans les années 50.
À Lourdes, vous avez des pèlerinages depuis 1858. Et bon, ça a toujours été, depuis 1858, il y a des pèlerinages et il y a des homélies, il y a des prières, etc. Et donc, jusque dans les années 50, voire 60, on était très dans cette formule d'unité que j'appellerais plus romaine que catholique. Et depuis, on a beaucoup plus essayé de comprendre à quoi sert, comment on va comprendre l'unité, le ministère d'unité du pape, que de se situer dans une catholicité qui est de prouver qu'on n'est pas protestant. Et dans le discours de votre prêtre, il y avait les deux. Historiquement, c'était pour prouver qu'on n'était pas protestant. Alors que c'est pas de l'hérésie, vous comprenez ? Mais il y avait une forme de barrière avec le protestantisme. Vous voyez ce que je veux dire comme on est plus dans les points d'insistance et dans les nuances qui manquent un peu. Et on avait coutume de dire que les protestants ne croyaient pas en la Vierge Marie, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais eux trouvaient que les catholiques prenaient Marie pour Dieu, ce qui n'était pas vrai non plus. Vous voyez ? Parce qu'on n'était pas dans la nuance.
Merci.
Voilà. Donc, je vais maintenant parler d'Église apostolique. Et donc, je crois qu'il est... Vous voyez le tableau là, je crois. Ça partage ou pas ? Ne dis pas. Bon, alors... dire que l'Église est apostolique, il n'est pas trop difficile de comprendre que ça vient du mot apôtre. Alors, apôtre, une fois de plus, comme tous les ministères dans le Nouveau Testament, c'est un mot du vocabulaire civil. Ce n'est pas un mot du vocabulaire religieux à l'origine. L'apôtre, c'est l'envoyé et c'est en quelque sorte l'ambassadeur, mais c'est un envoyé, on va dire, plénipotentiaire. C'est-à-dire quand un chef quelconque envoie quelqu'un pour le représenter dans une discussion au loin, vous avez deux façons d'envoyer quelqu'un. Vous l'envoyez, entre guillemets, avec la mission de faire des allers-retours entre la personne à qui vous l'envoyez et vous. Là, je ne sais pas quel est le terme grec, mais vous avez une autre façon de l'envoyer, c'est de lui faire totalement confiance et de lui dire le traité que tu vas signer avec le roi du pays voisin, c'est toi qui le fait, je te fais entièrement confiance, ce que tu signes, ce que tu fais, c'est moi qui l'aurais fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un envoyé qui a le pouvoir de décider, de mener sa mission, de discuter, de transiger, de faire les compromis qu'il faut, sans en référer à la personne qui l'a envoyé. Et donc, c'était extrêmement important dans des pays et à des époques où il fallait 6 mois de voyage pour aller voir son supérieur. Quand c'était... Et donc, le fait que Jésus choisit parmi ses disciples des gens, c'est ce qui est mis en scène dans l'Évangile, qui sont des apôtres, ça veut dire qu'il leur confie complètement sa mission et qu'il leur confie la grâce, la charge, le souci, d'en être les porteurs, les réalisateurs, d'avoir l'initiative du comment on va faire. C'est leur, entre guillemets, déléguer ses pleins pouvoirs. N'oublions pas quel est l'ordre du pouvoir de Jésus-Christ. Mais c'est de l'ordre du... c'est la façon dont Dieu est avec nous. Il fait tellement confiance en l'homme qu'il le fait participer à sa charge de sauver le monde. C'est quand même énorme. Donc, être une église apostolique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord reconnaître que la foi que nous avons, c'est des apôtres que nous l'avons reçue. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas Jésus qui a dicté l'évangile, et c'est par l'intermédiaire des apôtres que nous avons reçu la foi. Je me trompe peut-être, mais la plupart d'entre nous n'avons pas eu d'apparition du Christ ressuscité. C'est nous faisons confiance à l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Et les premiers qui nous ont précédés, ce sont les apôtres. Donc, notre foi et la foi de l'Église est fondée dans la foi des apôtres. Donc, c'est la première façon de comprendre l'Église apostolique. L'autre façon de comprendre l'apostolicité de l'Église, qui est, c'est pas l'une ou l'autre, c'est forcément les deux. C'est également de comprendre que l'Église, et dans l'Église, chacune des églises locales, a continué à faire vivre, à faire durer la mission qui a été confiée aux apôtres par Jésus. Donc, d'être également à la fois dans la fidélité et à la fois dans l'initiative, puisque l'apôtre, c'est quelqu'un qui a le droit à l'initiative, qui a le droit de s'adapter à ce qui n'a pas été prévu au moment où il a discuté avec la personne qu'il a envoyée en ambassade à 800 km, à 5000 km, qui n'avait pas prévu tout, et qui lui dit, puisque tu es mon apôtre, mon apostos, c'est à toi de prendre les initiatives qui vont être nécessaires pour accomplir la mission que je t'ai donnée. Donc, être une église apostolique, c'est se situer dans la réception de la foi reçue des apôtres et dans la continuation de la mission confiée aux apôtres. Alors, ça, c'est la compréhension de l'Église apostolique d'un théologien. D'un théologien qui a du recul. Donc, que je vais trouver chez Casper, que je vais trouver encore plus chez Moltmann. Mais au cours de l'histoire, on a eu des glissements dans cette apostolicité. Donc, apostolicité d'origine, on est ancré historiquement dans la foi des apôtres et dans la mission des apôtres. Petit à petit, cette apostolicité, mais très tôt, elle a été comprise comme portée, on est toujours pareil, par l'évêque, qui a été vu comme un successeur des apôtres. Tout à l'heure, on a vu, quand on parlait de la catholicité de l'Église, on a évoqué cette figure de Polycarpe de Smyrne, qui était très âgé quand il a été martyr, hein, très très âgé. Et qui disait qu'il avait été consacré évêque par Saint Jean lui-même. Saint Jean, la légende veut qu'il ait vécu très longtemps, et qu'il était très jeune au moment de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, ça permettrait qu'il n'y ait qu'une génération, entre que deux générations, de Saint Jean à Polycarpe. Polycarpe est très, très âgé. Hein, quand... Et Irénée, qui est donc le premier évêque de Lyon, dit qu'il a été consacré évêque par Polycarpe. Et donc, il revendique sa succession apostolique. Vous voyez ? Il se revendique successeur d'apôtre par cet intermédiaire des évêques qui ont reçu l'imposition des mains d'évêques, qui ont reçu l'imposition des mains d'évêques, qui l'ont reçu des apôtres. Et cette apostolicité d'origine va petit à petit être revendiquée par différentes églises locales avant qu'il y ait éclatement de la chrétienté. Mais les églises locales vont dire « Moi, je descends de tel apôtre. » C'est-à-dire, celui qui a consacré mon premier évêque, puisque l'apôtre n'est pas encore évêque, c'est tel apôtre. Alors, l'église de Constantinople se considère comme fondée par André, l'église d'Alexandrie par Marc, l'église d'Éthiopie par Matthias, là, le fameux douzième qu'on a rajouté pour remplacer Judas, et va se construire une identité de différentes églises locales par leur apostolicité d'origine. Les chrétiens syro-malabar d'Inde se considèrent comme les chrétiens de Thomas, comme ayant été fondés par l'apôtre Thomas. Donc, qu'on ne voit plus du tout apparaître dans les histoires, dans le Nouveau Testament, etc., ce qui serait cohérent avec le fait qu'il serait passé vers l'Est et que tous nos écrits restent de la zone grecque, qui serait parti vers les pays beaucoup plus à l'Est, d'Arabie, vers la Mésopotamie et peut-être même jusque vers l'Inde. Donc, apostolicité d'origine. Et alors, c'est là qu'Irénée, donc premier évêque de Lyon, qui revendique le fait qu'il est évêque parce qu'il a été ordonné évêque par Polycarpe, qui lui-même a été ordonné par Jean, donc il revendique beaucoup sa succession apostolique, va affirmer que l'Église de Rome est la plus grande parce qu'elle a été fondée par deux apôtres, Pierre et Paul. Et c'est de là, c'est un des premiers écrits où on voit apparaître, c'est tôt, hein, c'est 130, 140, 150, où on va apparaître cette espèce de centralité de Rome du fait des tombeaux de Pierre et Paul qui sont attestés à Rome, du fait que le martyr de Pierre et le martyr de Paul ont sans doute eu lieu à Rome, du fait qu'ils revendiquent cette succession apostolique et que, du coup, l'Église de Rome, ayant plus particulièrement en charge le souci de la catholicité, dans le courant de l'histoire, alors que les égaux, aussi bien de personnes que de communautés, deviennent pas très sains, il n'y a même pas besoin de mettre un T à la fin, deviennent des affaires humaines, va se cristalliser l'idée que ne pas être en communion avec Rome, c'est ne pas être la véritable Église, et c'est pour ça que l'Église romaine va s'octroyer pour elle-même et imposer au monde le titre d'Église catholique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et imposé l'idée que l'Église, la véritable Église catholique, est celle qui est en communion avec Rome. Alors là, j'ai parlé un petit peu, l'apostolicité de doctrine, c'est celle qui est en lien avec les apôtres, et de succession hiérarchique, c'est reconnaître que les épiscopats, que les ordinations d'évêques ne sont valides que s'il n'y a pas eu d'interruption dans cette succession où un évêque ordonne un évêque qui est... Un évêque est ordonné par un évêque qui est ordonné par un évêque qui a été ordonné par un apôtre. Donc, ce qu'on appelle la succession hiérarchique, à laquelle sont extrêmement attachées les églises catholiques romaines et orthodoxes. D'accord ?
Excusez-moi, je crois que j'ai manqué quelque chose. En 130, qu'est-ce qui a fait que l'Église de Rome se diffondait par les deux apôtres Pierre et Paul ?
Alors, depuis très très tôt dans l'Église, on a la certitude, et les historiens pensent que la certitude est tellement ancrée que c'est sans doute vrai, que ces deux apôtres, Pierre et Paul, sont morts à Rome. On n'a pas de preuves historiques. On a la tradition la plus ancienne veut que le tombeau de Pierre soit sous l'église Saint-Pierre au Vatican, que le tombeau de Paul soit sous l'église Saint-Paul-hors-les-Murs, qui est une église, une basilique de Rome très ancienne. La tradition est tellement, tellement, tellement ancienne que ça vaut quasiment preuve historique qu'effectivement ils aient fini leur vie à Rome. Même si à ce niveau-là, les preuves historiques, même qu'on n'a aucune preuve historique de l'existence de Jésus, mais il n'y a plus beaucoup d'historiens rigoureux qui nient l'existence de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que le phénomène, la foi, est une forme de preuve historique qu'il a effectivement remué le monde pour créer la foi en Jésus-Christ. Donc, l'idée que cette Église a une double fondation, elle est développée par Irénée. Et les évêques de Rome vont s'emparer très vite de cette idée qu'ils sont les arbitres de la chrétienté, ce d'autant plus que quand même, Rome est le centre du monde dans l'Empire romain à cette époque. Et qu'en plus, c'est le centre du monde, mais c'est aussi le centre de la culture latine, qui est une culture très rigoureuse, très juridique, très précise et très organisée, ce qui fait que l'Église de Rome va d'autant plus avoir un rôle important dans les fondations de l'Église primitive que dans cette espèce de foisonnement très brouillon. C'est certainement une des plus organisées. Et donc, qui va, parce qu'elle est organisée, structurée, ce sont des juristes les Romains quand même, être capable de mieux aider matériellement et de mieux aider à mettre de l'ordre institutionnellement dans les églises, dans les systèmes d'églises primitives. Très bien expliqué dans les ouvrages de Marie-Françoise Basselès, comment notre monde est devenu catholique, par exemple. Marie-Françoise Basselès, moi je ne la connais pas, mais c'est une très bonne amie de Roselyne Dupont-Roch, c'est une dame qui a entre 70 et 80 ans, je ne sais pas exactement quel âge elle a, hein, mais qui est une, une historienne de l'Église primitive, très reconnue aussi bien dans le monde universitaire français que dans le monde chrétien, pour sa rigueur et sa compétence sur l'Église primitive. Donc, je vous recommande ces ouvrages. En plus, ça se lit bien, c'est facile. Donc, voilà. Donc, on voit, avec cette notion d'apostolicité, se mettre en place cette revendication de l'Église de Rome d'être l'arbitre de la catholicité, d'être le référent en catholicité de l'Église. Alors, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, hein, mais qui ne va qu'augmenter. Et à partir du moment où Rome va tomber, ne sera plus le centre de l'Empire, cette revendication de Rome ne sera plus supportée par les Églises d'Orient. Et petit à petit, à force de se disputer, de se rabiboucher, de se redisputer, la rupture va être définitive aux alentours de l'an 1000. Ce n'est pas une rupture brutale, hein, comme la rupture avec Luther, où on peut dire à telle date, Luther a fait tel geste, et à partir de là, tout s'est enchaîné. Alors, pour conclure sur ces credos, je voudrais réinsister sur cet aspect eschatologique de la foi que nous proclamons. Donc, quand on confesse l'Église, une sainte catholique et apostolique, nous croyons que c'est comme ça que Dieu veut son Église. Nous ne nous faisons pas trop d'illusions sur la réalité de l'Église. Mais il y a cette question de la véritable Église. Je vous ai dit que pour l'Église primitive, celle du IIe siècle, celle qui invente le terme de catholique, la véritable Église, c'est celle qui se sent dans l'unité les uns avec des assemblées entre elles. Unité qui est médiatisée, qui est signifiée dans la personne des évêques. Donc là, on est dans les premiers siècles. Une grave question actuellement, vous avez trois grandes familles d'églises qui revendiquent d'être l'Église dans le monde dans lequel nous vivons. Dans ces trois grandes familles, vous avez deux théologies de l'Église radicalement différentes. Vous avez les catholiques romains, donc, et les orthodoxes, les orientaux, tiennent extrêmement fort au fait que une Église historique, qu'il est nécessaire que la réalisation historique de l'Église soit la véritable Église, que la véritable Église existe par des institutions, par une visibilité, par qu'on puisse la rencontrer dans un ici et maintenant, qu'elle est une unité. Et donc, pour les églises catholiques et orthodoxes, la division des églises est un drame, et un réel drame. Alors, drame qui est un signe du péché. Pendant longtemps, ils se sont rejetés l'un sur l'autre le drame de la division. depuis pas si longtemps que ça, mais quand même un petit peu, au moins, hein, ils reconnaissent que les divisions sont toujours un peu à tort partagées. Mais ils vivent ça comme un drame. Au contraire, dans l'ecclésiologie protestante, les églises existantes, les églises historiques, n'ont pas la mission, la responsabilité d'incarner, de faire exister la véritable Église. Véritable Église qui est de l'ordre eschatologique, qui est de l'ordre de la création par Dieu. Et les églises telles qu'elles existent, les églises locales, ont à se comporter conformément à la mission de l'Église, mais elles n'ont pas la responsabilité, en gros, d'incarner la véritable Église qui n'est pas de ce monde, qui ne peut pas être terrestre, qui ne peut pas être historique. Et donc, ce sont des églises qui vivent entre elles une très grande unité alors qu'elles sont radicalement différentes parce qu'aucune d'elles ne porte la prétention à être la véritable Église. Et donc, ce sont des églises qui ne supportent pas très bien, en particulier de la part du catholicisme romain, la prétention à être l'Église. La véritable Église telle que Dieu l'a vue. Donc, cette question de l'Église, de la véritable Église, ce n'est pas seulement une revendication des uns ou une marche pour aller vers une unité qui ferait que la véritable Église puisse exister sur la terre. Il y a quand même une coupure théologique entre les églises orthodoxes et catholiques d'un côté et les églises issues de la Réforme de l'autre, sachant que, comme toujours dans cette coupure, les anglicans ont un pied de chaque côté, mais il y a une coupure théologique dans la compréhension de l'Église entre deux familles d'Églises différentes. Alors, même si là où je suis, j'ai une vision plus catholique de l'Église avec l'idée que si une Église terrestre, une Église historique pouvait être vraiment signe de l'Église telle que nous la proclamons dans la foi, ce serait quand même mieux sur le plan de sa présence au monde, de sa présence à Dieu. Je vais laisser la dernière phrase à Moltmann pour dire que la confession à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et la confession au règne du Christ qui réunit une, qui sanctifie, sainte, qui englobe, catholique, et confère une mission. Donc, voilà un petit peu cet avant-dernier cours où on revient un peu dans de la théologie longue et pas seulement sur de l'actualité et dans la théologie qu'on qualifie de plus spéculative. On est plus dans les idées que quand on a parlé d'institutions et de ministères. Et on est également moins dans le fruit de la prière que quand on a parlé de baptême ou d'eucharistie et de corps du Christ. Si vous voulez parler, Dominique, il faudrait mettre votre micro.
Nous, on fait des commentaires entre conjoints.
Ah, d'accord. Il y en a qui profitent clandestinement.
Vous la voyez, Marielle est au même endroit, là.
Ah, d'accord. Elle est...
c'est pas une clandestine.
Elle n'est pas clandestine. Elle est derrière son écran également.
Je suis là.
Et vous n'avez pas trop de l'arsène et de problèmes.
Il y en a un qui coupe le micro, quoi. C'est obligatoire.
Bon. La semaine prochaine, ce sera notre dernier cours sur l'Église. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un peu plus de temps pour discuter, pour que vous posiez des questions, etc. Je voudrais aborder un petit peu, mais en étant un peu souple et partir plus de vos questions, le fait de vivre maintenant dans un monde qui n'est plus majoritairement chrétien. Alors que, en gros, de l'empereur Constantin aux années 80 du XXe siècle, les églises en Occident, l'église catholique romaine, a vécu majoritaire. Ça s'est plus ou moins bien passé avec les pouvoirs publics, il y a eu des querelles dans l'histoire avec les responsables, avec les princes, comme on disait, il y a eu. Mais globalement, on était dans un univers majoritaire et la façon dont l'Église va avoir à se comprendre est importante. Mais je voudrais quand même faire pas mal de place à vos questions. Donc, je vous invite d'une part à les noter, parce qu'après, quand vous êtes derrière votre écran à 20h30, 21h, ça vous sort de la tête, vous ne savez plus ce que vous aviez comme question, et éventuellement à me les envoyer, en les envoyant au secrétariat, Hélène me les fera passer. Voilà. Ou en les envoyant à mon adresse que vous devez avoir dans un mail sur la synodalité.
Merci.
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 Merci, donc,
merci Anne. Merci.
Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière séance.
D'accord. À la semaine prochaine. D'accord. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
Merci. Merci.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Au revoir.
Merci à tous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.